À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.
Bonsoir Dominique, bonsoir Laurent.
Bonsoir Alain.
En cette nouvelle
bonsoir
année.
Bonsoir Laurent.
Alors tout d'abord, tous nos meilleurs voeux à tous les auditeurs et à toute leur famille et à tous leurs amis. Alors, comme d'habitude, on va commencer par l'actualité en Italie. Bon, la fin d'année 2012, il n'y a pas eu de fin du monde finalement. Et cette fin d'année 2012, politiquement, la plupart de la presse s'en est fait écho. Vous avez appris que Mario Monti démissionnerait après le vote du budget. Normalement, il devait avoir de nouvelles élections au mois d'avril. Le budget sera voté. Après ce budget, s'il démissionne, il y aurait des nouvelles élections, peut-être en mars. Donc finalement, on retombe quasi à la case départ, on va dire. Lui ne sait toujours pas s'il va se présenter ou pas. Au début, il a dit qu'il ne se présenterait pas, puisqu'il ne se considère pas comme un politique, puisqu'il avait un gouvernement technique, qui est d'ailleurs de moins en moins technique, et de plus en plus sans doute politique. Et puis, ses adversaires, entre guillemets, ou les autres postulants, seraient un ancien là, président du Conseil, un petit peu farfelu, qui a eu quelques condamnations, qui dit vouloir se représenter, après il dit ne plus vouloir se représenter, disant qu'il a autre chose à faire dans la vie. Alors on sait pas trop. Ce qu'on sait par contre, c'est que beaucoup de ces anciens ministres ne le suivraient pas. En tous les cas, c'est ce qu'ils disent ces dernières semaines. Et au premier sondage sur ces futures élections, il n'aurait pour l'instant que 14% des voix sur les sondages. Alors l'élection, elle concernera les députés, c'est-à-dire 630 députés à la Chambre et 315 sénateurs. Peut-être que cet ancien président du Conseil souhaiterait avoir une immunité en étant au moins élu député. Mais enfin, c'est peut-être un vœu pieux pour cette nouvelle année, mais il me semble quand même mal parti. Alors qu'est-ce qu'il y aurait si Monti se présente? Il y aurait à gauche Bersani, qui est sorti vainqueur des primaires, et qui est un, disons, social-démocrate, qui a eu 61% des voix contre 39% à Renzi, et qui représenterait le centre-gauche. Sinon, on ne sait pas trop encore quelle position prendrait à la fois la Lega, à la fois Rifondazione Comunista, à la fois Nicky Vendola, qui est aussi un homme politique de gauche, Beppe Grillo et son mouvement des 5 Stelle, qui, au niveau des sondages, aurait quand même 15% des voix. On ne sait pas non plus ce que fera l'Udivide Di Pietro ou les centristes de l'Udici. Donc à suivre en cette année 2013, en ce début d'année 2013. Après avoir un petit peu affolé tout le monde, Monti, quand il a annoncé qu'il démissionnerait après le vote du budget, il n'a pas... Toutes les médias, les marchés, finalement, s'affolent un peu moins. Et peut-être parce qu'ils se rendent compte que finalement, on va aux élections quasi à la date qui était prévue. Voilà. Alors, on pourrait évidemment parler de la situation italienne, de la situation européenne, de la situation française étant quasi dans des similitudes proches. Mais on est allé voir récemment, au mois de décembre, un concert à Lyon, et il y avait une Stefano Valla, qui est un musicien, chanteur de la région de Gênes, qui appartenait à une époque au groupe La Squadra, et qui a dit une phrase assez intéressante, Dominique, tu y étais aussi,
oui,
en disant qu'il y a l'Italie visible dont tout le monde parle, mais il y a aussi une Italie dont on parle beaucoup moins et qui fait beaucoup de choses.
Absolument.
Évidemment, il faisait allusion à la musique, mais on peut l'étendre.
On peut extrapoler.
Extrapoler. Et bon, on est, l'Italie, comme beaucoup de pays, dans une période d'interrogation,
de transition.
Oui. Mais on ne va pas ajouter à la morosité ambiante, parce que finalement, elle ne sert pas à grand-chose. Alors, l'actualité italienne, fin 2012, ça a été au mois de décembre aussi, la désignation à Novara, la remise des prix Targhe Tenco. Alors, le club Tenco, on rappelle, a été fondé en 1972 par Amilcare Rambaldi pour soutenir la chanson d'auteur et un petit peu prendre hommage à Luigi Tenco. Il a été fondé en 72 pour rendre donc hommage à la chanson d'auteur, pour soutenir la chanson d'auteur italienne, mais aussi internationale. Et une dizaine d'années plus tard, ce club Tenco a décidé de désigner, de remettre des prix. Alors il y a le Premio Tenco, qui est un prix qui est décerné par le club Tenco, et dont le directeur artistique est maintenant Enrico De Angelis, qui était un aussi des fondateurs, des fondateurs que l'on connaît bien. Cette année, le Premio Tenco a été remis à un groupe qui s'appelle Kismatis. C'est un groupe de musique klezmer de New York. Et puis, il y a les Targhe Tenco, qui sont des prix remis par des journalistes, environ 200 journalistes italiens et autres, qui récompensent les meilleurs albums, interprètes ou chansons de l'année. Alors, cette année, ces remises se sont faites à Novara, donc au mois de décembre, et dans la préparation de ces remises de Novara, il y avait eu une grande soirée à Sanremo. Pour des raisons budgétaires, les soirées de Sanremo ont été réduites. Il y avait aussi des apéritifs musicaux, il y avait à la soirée De Gregori, Giovanna Marini. Et aux apéritifs musicaux, il y avait invité par le club Tenco Erika Boschiero, dont on a parlé la dernière fois et que nous aurons la joie de voir à Bourgoin dans 2 mois, au mois de mars. Donc les prix cette année ont été remis pour le meilleur album à After Hours, qui est un groupe italien malgré son nom. Il y a eu aussi un cantautore qui s'appelle Zibba, qui a eu aussi été désigné comme meilleur album pour Come il suono dei passi sulla neve. Et le meilleur interprète a été Francesco Baccini, qui rendait un hommage à Luigi Tenco, donc Baccini Cantatenco. Enzo Avitabile a eu le meilleur album en dialecte pour Black Tarantella. Colapesce a été désigné comme le meilleur groupe pour Un meraviglioso declino, pour le meilleur groupe pour la première œuvre, disons. Et on va vous faire entendre, non pas un de ces albums qui vient d'être désigné parce que nous n'avons pas encore pu les réceptionner en France, mais l'album qui a été désigné l'an dernier comme meilleur album, donc Targhe Tenco 2011, qui est donc l'album de Vinicio Capossela, qui est déjà quelqu'un de confirmé, qui a souvent gagné des prix au club Tenco. Et on va entendre Vinicio Capossela dans La Madonna delle Conchiglie. La Vierge, la Madone des coquillages, est arrivée, restituée par la mer, sans carte, sans escorte, sans laissez-passer, sans passeport. Et de cette fugitive démunie, nous avons fait une Vierge noire qui est la Vierge des navigateurs, qui protège les hôtes comme les voyageurs. Vinicio Capossela.
La Madonna delle Conchiglie è arrivata restituita dal mare. Senza carte, senza la scorta, senza permesso, senza passaporto. E di un fuggiasco così come era ne abbiamo fatto la Madonna nera. Che la Madonna dei naviganti protegge gli ospiti come i viandanti. Volta l'onda e poi la rivolta, mentre tremola sopra la barca. Sopra la barca la portano fuori, guarnita tutta di conchiglie e fiori. Benedice chi si avventura, chi ha il cuore saldo e chi si ha paura. Chi viene arriva con le fanfare, chi arriva solo e sputato dal mare. La Madonna delle conchiglie, gli occhi come biglie, come coralli, è vestita di drappi azzurri, come a una perla le fanno ventaglio. Ha lo sguardo dolce un poco lontano di chi per tanto ha navigato in vano. Ha lo sguardo dolce un poco assente di chi ti capisce e non può farci niente. Ma dalla fede della sua gente lei non sa come riparare. La guarniscono e danno ai flutti, le sparano il fuoco e la invocano tutta. Statuetta restituita dal mare, ti guarda mute senza parole, al volto tinto di un altro colore, da chi diverso e così lontano se le forgiate dipinta a mano. Un altro popolo, un'altra gente, con la stessa paura di sempre, di essere nati e dover andare, nati e poi non essere più niente, di essere nati e dover andare, nati e poi non essere più niente.
Vinicio Capossella. Alors Dominique, tu vas nous parler maintenant d'un projet entre le lycée Gambetta, que tu connais bien, et un lycée italien.
Alors,
entre autres.
Oui, entre autres. C'est un peu plus qu'un projet, puisqu'il y a 2 ans, nous avons démarré un échange à la demande de l'Alliance française de Cuneo, un échange avec un lycée, un tecnico de Fossano, un lycée qui s'appelle l'Istituto Vallauri. Et donc, ça a commencé par un déplacement. Nous sommes allés à Fossano avec la professeure d'italien de cette année-là. L'année d'après, c'est-à-dire au début de l'année scolaire dernière, une collègue est venue nous rendre visite au lycée Gambetta. Et puis, nous avons accueilli 11 élèves de leur établissement au mois de juin. Des élèves qui ont séjourné quasiment pratiquement 3 semaines et qui ont effectué un stage. Donc il a fallu trouver des familles pour héberger ces élèves et puis des lieux de stage. Et je crois que ça a été un séjour qui s'est très bien passé. Nous avons accueilli des élèves qui parlaient formidablement bien la langue française. Donc en plus, ça a été très, très facile. Et nous nous apprêtons, à partir de la fin du mois de janvier, à envoyer 5 de nos élèves dans le cadre d'un projet européen Leonardo, c'est-à-dire des élèves qui vont effectuer leur stage professionnel, leur stage de formation professionnelle en Italie.
Donc dans des entreprises ?
Dans des entreprises italiennes. De Fossano.
D'accord. Et ça a été difficile à mettre en place, non ?
C'est du travail. C'est du travail.
C'est très administratif. Ce sont les contacts qui sont les plus difficiles.
Non, les contacts sont très agréables. C'est toujours très très. C'est pas la première fois que Gambetta travaille avec un établissement italien. Les contacts sont très faciles, très chaleureux, très cordiaux. On se téléphone régulièrement, quasiment tous les jours. Non, c'est un travail de coordination, de chercher des entreprises, chercher des familles. Tout va pas de soi. Mais c'est quelque chose qu'il est très agréable de faire, parce que beaucoup de relations et des relations d'amitié.
Bien, et je crois que Gambetta, cette année, en plus
Alors,
de cet échange...
Gambetta a un projet, mais en fait, c'est un projet qui est soumis à approbation de la région. Donc la balle, pour l'instant, est dans le camp de la région. On appelle ce genre de projet européen toujours un Comenius Regio. Il s'agit d'un partenariat entre deux établissements étrangers, deux établissements européens et deux régions également européennes. Donc on a de nouveau sollicité éventuellement l'établissement de l'UIC de Fossane pour savoir s'il serait partant. Un projet qui voudrait travailler sur les attentes de l'entreprise par rapport à la formation professionnelle.
Et puis Gambetta fêtera cette année son anniversaire.
Et alors, Gambetta a fêté en 2013 les 80 ans de son inauguration en octobre 2013 exactement, ses 80 ans.
Alors Gambetta est indirectement, enfin lié par les échanges avec l'Italie, mais Gambetta, Léon Gambetta, l'homme politique était né en 1838 à Cahors, était fils d'un commerçant génois qui
Tout
était venu s'installer à Cahors.
Tout à fait.
Et le nom Gambetta, puisque c'est Gambetta en italien, est très répandu dans la région de Gênes.
Oui.
Et il y a notamment deux musiciens, Filippo Gambetta et son papa Beppe Gambetta, qui font autorité dans le monde de la musique. Filippo Gambetta, le fils qu'on a entendu la dernière émission, qui fait partie aussi du groupe Ili Uriani, est un des meilleurs joueurs d'accordéon diatonique italien. Il est très jeune, hein, il a une trentaine d'années. Et son papa, Beppe Gambetta, est un guitariste assez exceptionnel, guitare acoustique à 6 ou 12 cordes. Et on va les entendre dans un morceau qui s'appelle « Mario », qui est donc joué par Filippo Gambetta à l'accordéon diatonique, accompagné par son père à la guitare. Voilà, donc c'était Filippo et Beppe Gambetta.
Magnifique musicien.
Magnifique musicien, c'était un petit clin d'œil au lycée.
Au lycée Gambetta.
Gambetta. Voilà, donc tu voulais aussi, on reprendra peut-être le cours de cet échange tout à l'heure, et tu voulais nous parler aussi d'un livre qui a été écrit, non pas cette fois par une génoise, mais par une turinoise.
Une turinoise, effectivement, qui s'appelle Paola Mastrocola. Donc elle a écrit un bouquin qui, en français, dont le titre en français a été traduit par Amore, et le titre original est Più lontana della Luna. Donc c'est un livre qui a été publié en Italie en 2007, publié par Guam, les éditions Guam, que je ne connaissais pas, et qui vient de paraître aux éditions Arléa, un assez gros roman de 418 pages, traduit par M. Christophe Mileschi, je le prononce à l'italienne, professeur de littérature italienne contemporaine à l'université de Paris-Ouest Nanterre.
Qui vient souvent dans la région.
Qui vient souvent dans la région, oui. Qui a écrit un certain nombre d'essais concernant l'Italie. Cette Paola Mastrocola est née en 1956 à Turin. Elle a été lectrice d'italien à la faculté d'Uppsala. Elle enseigne actuellement les lettres dans un lycée scientifique près de Turin. Elle a commencé par écrire des livres pour enfants, puis elle s'est mise au roman. Le premier de ses romans, La Gallina Volante, a connu un grand succès public et elle a, pour ce roman, obtenu le prix Italo Calvino en 1999. Paola Mastrocola, c'est quelqu'un qui aime les personnages ordinaires, mais il aime bien ces personnages, ordinaires donc, qui font des choses singulières. Elle aime les digressions, elle aime les rues latérales que personne n'emprunte, ce qui s'écarte juste un tout petit peu des sentiers battus. Cela n'a rien à voir avec un goût pour la folie, la déviance, s'éloigner juste un petit peu de la norme pour s'ouvrir aux rêves. Et dans ce livre, donc, elle nous raconte l'histoire d'une jeune fille au démarrage du livre, puis d'une jeune femme, dans une petite ville près de Turin, Stupinigi. Elle est fille d'un ouvrier de la Fiat. Elle ne va pas à l'école. Elle aide sa maman, qui est marchande de légumes sur le marché. Et en lisant l'encyclopédie que ses parents achètent par tempérament, elle découvre la littérature des troubadours et leur éloge de l'amour de loin, l'amour lointain. Alors elle se met en quête de celui qui pourrait être son amour lointain. Sauf que très vite, elle découvre qu'il est sinon impossible, au moins contradictoire, d'aimer quelqu'un, de prétendre aimer quelqu'un qui est loin, qu'on voit donc jamais, sans le voir. Un livre plein de fantaisie, très poétique, une tonalité douce amère, non exempte d'humour, avec une grande tendresse pour cette femme qui se cherche, au prix parfois de se tromper, d'entretenir des illusions sur elle-même, sur ses rencontres, sur la vie, sur l'amour. À cet égard, il est intéressant de noter que son dernier amour lointain est justement un illusionniste. Cela n'interdit pas à la romancière quelques considérations sur l'Italie de l'époque, sur sa croissance, sur ses combats politiques, les années 70 donc. Elle évoque, en parlant de la ville de Stupinigi, ce moment d'intense industrialisation où la campagne et la ville se côtoient, mais on le sent bien que la ville finira par l'emporter, même s'il y a encore ça et là quelques fermes. Et puis elle décrit, j'aime beaucoup cette délicatesse, les conditions de vie d'une famille qui se bat pour survivre économiquement, tout simplement. Au final, le portrait d'une figure féminine non conventionnelle qui va apprendre progressivement le sens de la vie, découvrir l'amitié, faire des concessions avec son idéal, retrouver ses parents qu'elle a abandonnés un peu sur un coup de tête, quoi qu'il en soit. La romancière nous invite dans ce livre à penser différemment. Est-ce que j'ai quelques minutes pour lire un extrait du livre ?
Absolument.
Donc dans la dernière partie de ce livre, elle se décide à devenir sculptrice, parce qu'elle a visité les carrières de Carrare, donc sculptrice dans du marbre. Et elle nous décrit un bloc de marbre qui est arrivé dans son atelier. C'est impressionnant, un bloc de marbre, ça ne dit rien, ça n'exprime rien, c'est là, ça se pose. Un rocher arrive chez soi, un rocher au sens propre, un morceau de montagne. Toi, tu passes ta commande. Apportez-moi un morceau pour mardi. Et le mardi, on te livre ce machin qui n'est rien d'autre qu'un morceau de ces splendides montagnes blanches de Carrare. Au début, tu ne fais semblant de rien. Tu lui fais passer la grande porte de l'atelier et tu le fais installer dans un coin. C'est un peu encombrant, mais ça ne fait rien. Tu laisses passer quelques jours en continuant à ne faire semblant de rien. Le rocher est là, mais tu ne le regardes pas. Tu manques de buter dedans. Tu l'as juste devant toi pendant que tu travailles, mais tu regardes ailleurs. Et puis un jour, tu en prends acte. Tu t'approches, tu le jauges, tu prends une chaise, tu t'assieds en face de lui et tu restes là pendant des heures. Tu t'en vas, tu vas faire les courses, tu téléphones, tu vas au cinéma. Mais oui, c'est ça. Fais ce que tu as à faire. En attendant, ce rocher s'est gravé dans ton cerveau. Quoi que tu fasses, sa maudite forme est en toi. Tu te déplaces, tu achètes, tu vois, tu penses, tu fais, tu vis. Tout ça avec un gigantesque parallélépipède planté dans la tête. Au bout du compte, tu rends les armes. Tu noircis des feuilles et des feuilles d'esquisse au crayon, des feuilles innombrables, grand format, que tu éparpilles partout dans ton atelier. Et maintenant, tu es mécontente, anguleuse. Les autres le savent et te laissent mariner dans ton jus. Puis ça passe. Le jour vient où l'une des esquisses est la bonne, le monde s'ouvre à nouveau, le ciel se déchire. Tu prépares la forme en plâtre en te concentrant sur les points, précise et machinale. Tu fixes la mise au point, tu transfères le dessin sur le plâtre, puis du plâtre au bloc de marbre. Et c'est parti. Tu t'approches du rocher, tu lui parles, tu le caresses, et tout à coup, bang, tu l'attaques, tu l'entreprends, tu fais sauter des éclats, tu dégrossis les masses dures, tu tailles à l'arbre flexible, tu y vas à fond, tu cognes à la massette, tu passes aux gros ciseaux, aux râpes, aux onglettes. En somme, tu allèges le rocher de tout l'excès de pierre dont il est chargé et qui le rend si terriblement carré, obtus, sombre, vide de sens. C'est toi qui vas lui donner un sens. Toi. C'est beau.
C'est beau. Et, hein, et donc, Amore, et ça... Le premier titre qui a été traduit en français.
Le titre, pardon, je le retrouve, c'est Più lontana della luna.
Qui a été traduit en français par Amore, mais c'est la première traduction d'un de ses livres. Elle a publié déjà beaucoup de livres.
C'est la première traduction en langue française d'un de ses livres. Elle a écrit quatre romans, je crois.
Elle a écrit quatre romans et elle a eu de nombreux prix.
Oui, tout à fait.
Donc elle est de Turin. Et tu nous rappelles l'éditeur, peut-être ?
Donc l'éditeur français, c'est Arléa, un petit éditeur très intéressant qui publie beaucoup de traductions de l'italien, d'ailleurs.
D'accord, très bien. Mais on va écouter une chanteuse turinoise, alors. On va écouter Isabella Zoppi, qui était venue, qu'on avait invitée il y a de nombreuses années à Bourgoin. On va l'attendre dans une chanson qui s'appelle Arcobaleno, l'arc-en-ciel. L'homme est un chat, la tête d'une méduse, une statue sans bras, le nom de la rose, l'homme est un serpent, un vrai monstre de bravoure, à la chemise au col sale, une lettre dans les balayures, l'homme est un dauphin, un esprit à sept voiles, un tas de complications, des jours avec et des jours sans. L'homme est une mouche, un poème en alexandrin, un dimanche à la pêche, un conflit avec les voisins, etc. Wow. Isabella Zoppi. Et on entendra au fond et accompagnant Isa à l'accordéon Gualtiero Bertelli, que l'on connaît aussi très bien.
L'uomo è un gatto, la testa della medusa, una statua senza braccia, il nome della rosa, l'uomo una serpe, un vero mostro di bravura, il collo sporco di una camicia, una lettera nella spazzatura. L'uomo è un delfino, un'anima a sette veli, un mucchio di complicazioni. E giorni uguali. L'uomo è una mosca, un poema in alessandrini, una domenica di pesca, una lite coi vicini. L'uomo è un cane, figlio di un cane col coltello, pirata di mare, di ragione, l'indirizzo di un bordello.
L'uomo è un delfino,
sogni malati e sogni normali. L'uomo è un telefono, un muso di lepre, una voce bassa bassa, una porta che non si apre. L'uomo è un arcobaleno, un mazzo di possibilità, lo stellato con il baleno, una lettera piena di novità.
Cuori speciali.
Voilà, donc Dominique, on va poursuivre l'échange dont tu nous parlais, enfin l'échange, la discussion sur l'échange entre Fossano et Bourgoin, entre les deux lycées de Fossano
oui,
et Bourgoin.
Oui.
Et je crois que tu as réussi, grâce à la technique de Couleur FM, à
tout à fait.
Graziella
Brondino, qui est professoresse.
Ciao,
ciao Graziella, come stai?
Tutto bene, grazie, anche voi?
Anche noi, ti ringrazio.
Buonasera, Graziella.
Dunque, siamo in tre attorno alla tavola di registrazione. C'è con me Alain, che è vicepresidente dell'INIS, e poi la mia collega che mi aiuta nelle lezioni di italiano, Cristiana.
Allora, je traduis. Je traduis quand même que Dominique a présenté la table qui est en interview avec Graziella et dont Christiane, dont vous entendrez tout à l'heure la voix, c'est une nouvelle voix ici à Couleur FM, et qui en donne des cours d'italien à INIS avec Dominique. Buonasera, Graziella.
Buonasera.
Buonasera.
E auguri buonasera per l'anno nuovo.
Grazie, anche a tutti voi.
Sì, grazie. Dunque, ci puoi spiegare dove si trova Fossano?
Sì, Fossano è una cittadina di 25.000 abitanti, è vicino a Cuneo, verso le Alpi Marittime, e si vede da noi tutto l'arco delle Alpi, quindi siamo molto vicino alle montagne. Fossano è una cittadina che ha un'economia agricola con alcune industrie, e è una realtà provinciale molto tranquilla.
Pressa poco la popolazione di Bourgoin, 25.000 abitanti, è quasi uguale.
Sì, penso, sono stata a Bourgoin e penso che sia una realtà simile. Ora non so la vostra economia, ma la nostra è basata appunto molto sull'agricoltura, cerealicola, prevalentemente frutta. E, abbiamo diversi istituti scolastici in Fossano, abbiamo un bellissimo centro storico e medievale che segna la storia della città di Fossano, da un piccolo borgo di pescatori su un fiume chiamato Stura e fino ad un feudo degli Acaia con un castello costruito come palazzo castello alla maniera del sistema filippino che era stato ideato dal vostro Filippo Augusto nel 1200, ecco. Che caratterizza questo castello, caratterizza la nostra zona, ne siamo molto orgogliosi tra l'altro.
Ecco, dobbiamo tradurre adesso, sì, un po' diverso, cioè Bourgoin era una città della setta, diciamo,
sì?
E adesso questa industria è un po' in perdita, diciamo, non c'ho più un granché su quel lavoro, ma è una città dove ci sono tanti negozi e agricoltura non tanto, diciamo. Ma Dominique adesso sta per tradurre, dunque Dominique pour Fossano.
Donc Fossano est une ville dont la population est équivalente à celle de Bourgoin-Jallieu, une ville qui se trouve près de Cuneo et dont l'activité principale est agricole, une ville qui a un centre historique médiéval avec au moins une rue immense et des portiques très très belles, cette rue, un château construit, si j'ai bien compris, à la manière des forteresses de Philippe Auguste.
Absolument.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Il y a aussi de la pêche avec
c'est
le
juste
fleuve,
le Stura.
Le Stura qui est donc voisin de Fossano. Et c'est une ville donc de 25 000 habitants qui a une taille quasi proche de
oui,
celle de Bourgoin, mais une activité
complètement
différente.
Oui.
Ecco. Et donc, adesso ci può parlare un po' del suo istituto, della scuola, del liceo?
Sì, il mio istituto è un grande polo tecnico, cioè è un istituto che prevede diversi settori, diversi indirizzi di studio. Il nostro, di cui io sono responsabile, è il settore economico. Mentre abbiamo altri settori, il meccanico, l'elettrotecnico, l'informatico e poi abbiamo un liceo, il liceo delle scienze applicate, il quale non dà un diploma finale, quindi i ragazzi con questo liceo devono andare assolutamente all'università. Mm-hmm. Abbiamo 1300 allievi.
Ah, mamma.
È molto grande, è una realtà molto moderna, significativa per la nostra città e per un bacino di utenza, una provenienza dei ragazzi che arriva anche da molto lontano.
Cioè dal Piemonte? Quando lei dice da lontano, dal Piemonte o...?
Da lontano da tutta la provincia, ma a distanza anche di una 60-70 chilometri, perché la nostra è una provincia chiamata provincia Granda, perché è grande, è molto estesa, prende tutta la parte occidentale del Piemonte.
Bene. Dominique, donc c'est un pôle...
Donc c'est un lycée technique, on va dire ça,
avec plusieurs
pôles. Donc Graziella Brandine s'occupe du pôle économie, mais il y a aussi un pôle mécanique industrielle. C'est un lycée relativement important puisqu'il a 1300 élèves. qui recrute dans toute la province, une province qui est assez étendue.
Les élèves viennent même de 70 km.
Les élèves, oui, viennent de 70 km. Non ci hai detto, Graziella, quanti professori? Tu nous as pas dit combien de professeurs?
Sui 200, anche perché ora non siamo più, ci sono molti precari, come voi sentirete dalle notizie, e quindi quelli di ruolo vanno sui 150, non abbiamo più un calcolo preciso degli insegnanti.
150, 200 insegnanti in tutto.
150 titolari e 50 vacataire a peu près.
Oui.
Bene. E quali sono i rapporti con le ditte della zona?
Molto buono, ottimo proprio, in quanto noi svolgiamo attività di stage tutta l'estate, non durante l'anno, ma durante l'estate i ragazzi possono svolgere attività di stage lavorativi in industrie del circondario e anche nelle aziende della cittadina, quindi i nostri ragazzi dell'economico si inseriscono nelle banche, negli uffici, nelle aziende, diremmo così anche industriali, ma negli uffici, mentre i meccanici lavorano nelle fabbriche, nella stessa Michelin, perché noi abbiamo anche una sede della Michelin dislocata nella nostra zona.
Oui, je demandais si les rapports étaient bons avec les entreprises, Graziella répond que très, très bon. Puisqu'ils arrivent à avoir des stages relativement facilement, visiblement, et que ce sont des stages d'été pour la plupart du temps, soit dans le domaine de l'administration avec les banques et les bureaux de différents types, soit pour le secteur mécanique avec les entreprises qui utilisent dans les environs la mécanique. Elle nous précisait qu'il y a même une entreprise Michelin dans la zone. Dunque, che cosa sta aspettando l'istituto dello scambio con il liceo Gambetta?
Oh, delle bellissime cose.
Grazie.
abbiamo già sperimentato la precisione, l'efficienza di Monsieur Molin.
Ah, Monsieur Molin, è un grande.
Di tutta l'equipe che ha lavorato per accogliere i nostri allievi che sono stati appunto a giugno da voi a Bourgoin. E ora noi ci aspettiamo di continuare semplicemente questa esperienza sperando di fare lo stesso, rendere sereno il soggiorno di questi ragazzi che arriveranno il 28 gennaio appunto qui da noi. Ecco.
Allora,
siamo proprio anche nell'incontro tra i giovani, tra i ragazzi nostri con questi studenti, incontri che sono sicuramente sempre arricchenti perché
è giusto
superare confini ed incontrare culture, conoscere culture e ovviamente esercitare anche le lingue che si sono studiate in classe. Ecco.
Voilà, allora Graziella disait que je lui demandais ce qu'elle attendait de l'échange avec Gambetta, qu'elle a déjà éprouvé, puisqu'elle a reparlé des élèves qui étaient venus ici, comme l'a souligné Dominique, elle a précisé qu'elle a trouvé dans ce lycée, notamment en Dominique, une personne, comment on dirait, bien, et l'équipe de Gambetta dans son ensemble, que les personnes qui sont venues ici ont été très bien accueillies, et qu'elle espère faire de même avec son institut fin janvier, en espérant que ces enseignants-là continuent en plus dans le temps et que ce soit aussi bien au niveau professionnel que culturel et évidemment pour la pratique des langues, que chacun étudie la langue de l'autre et continue à étudier la langue de l'autre.
Elle a souligné aussi, je crois, l'intérêt qu'il y a à développer ces échanges. Absolument. Entre jeunes,
des
jeunes
qui réussissent au-delà des frontières.
Voilà, c'est ça. Fait. Allora, Graziella, ti ringraziamo per questa intervista e ci salutiamo.
Io ringrazio voi di questa occasione e vi saluto tutti caramente.
Grazie, grazie. Tanti auguri tanti per lei.
Auguri.
Per,
tanti auguri anche a tutti voi.
Per grazie. Tutti i vostri, grazie.
Arrivederci.
Presto, arrivederci.
Ciao,
ciao. Au revoir.
Ciao.
Arrivederci a tutti.
Ciao.
Bien, échange très intéressant.
Je pense.
Cette personne m'a l'air bien sympathique en plus.
Très, très sympathique. Très active dans son établissement.
Tu sais que elle a parlé de Fossano et des écoles de Fossano. Alors, il y a un chanteur italien très connu, un auteur, compositeur, interprète, qui a fait ses études de secondaire à Fossano,
vraiment.
Au lycée de Fossano. Et c'est Gian Maria Testa, l'ex-chef de gare, j'allais dire d'orchestre, l'ex-chef de gare, et qui, après le lycée, avait fait une carrière, avait passé des diplômes de fonctionnaire. Il était redevenu chef de gare. Son premier rêve était d'être avocat, mais il n'avait pas assez les moyens, sa famille n'avait pas les moyens de poursuivre des études plus loin. Et il a donc passé des concours, il est devenu chef de gare, il chantait comme ça, à temps perdu, beaucoup quand même. Et puis il avait été repéré par Nicole Courtois-Higelin, qui lui avait fait enregistrer son premier CD, son premier album en France d'ailleurs, en italien mais en France. Et il pratique les deux langues assez facilement, tout en ne chantant qu'en italien. Donc on va l'entendre dans un morceau qui n'est pas de lui, qui est un morceau qui avait été composé en 1927 par Bixio et Cherubini, qui s'appelle Miniera, et qu'il a remis à sa sauce, on va dire, qui parle donc de la mine, qui parle de l'immigration, évidemment, alors que dans les gargotes mexicaines, tous dansent au son de la hawaïenne. Arrive de loin un chant si triste, c'est le mineur du sud émigré là-bas, sa chanson est le chant d'un exilé, ciel d'étoiles, ciel couleur de la mer, tu es comme le ciel de ma maison, porte-moi en rêve vers ma patrie, porte-lui un cœur qui meurt de nostalgie, ciel d'étoiles, ciel couleur de la mer, tu es comme le ciel de ma maison, porte-moi en rêve vers ma patrie, porte-lui un cœur qui meurt de nostalgie. Gian Maria Testa.
Allorché in ogni bettola messicana ballano tutti al suono dell'havaiana, vien di lontano un canto così accorato e il minatore bruno laggiù è emigrato, la sua canzone è il canto di un esiliato, cielo di stelle, cielo color del mare, tu sei lo stesso cielo del mio casolare. Portami in sogno verso la patria mia, portale un cuor che muore di nostalgia, nella miniera è tutto un baglior di fiamme, piangono bimbi, spose, sorelle e mamme. Ma un tratto il minatore al volto bruno dice agli accorsi se titubante ognuno: io solo andrò laggiù che non ho nessuno. E nella notte un grido solleva i cuori. Mamme son salvi, tornano i minatori. Manca soltanto quello dal volto bruno. Ma per salvare lui non c'è nessuno. Cielo di stelle, cielo color del mare. Sei lo stesso cielo del mio casolare. Portami in sogno verso la patria mia. Portale un cuor che muore di nostalgia.
Gian Maria Testa. Voilà, alors on vous avait annoncé une nouvelle voix à Couleur FM et aux émissions à l'écoute de l'Italie. Donc cette voix, c'est celle de Christiane. Christiane, quelle est la meilleure façon que de demander à Christiane de se présenter elle-même, Dominique?
Par exemple, Alain, je pense que c'est une très bonne idée.
Alors Christiane, d'où vient Christiane?
Et je viens de Bourgoin, tout simplement.
J'habite
Bourgoin-Jallieu depuis 5 ans. Donc, je me suis intéressée à l'INIS.
Et à l'Italie.
Et à l'Italie, évidemment,
en
puisque je suis d'origine italienne, de Vénétie, Friuli-Venezia Giulia. Et donc, je suis très attachée bien à l'Italie et à la langue italienne. Donc, je poursuis toujours des cours d'italien. Avec Jean Guichard.
Elle oublie de le préciser, mais on l'a dit tout à l'heure dans l'interview en italien, qu'elle donne aussi des cours d'italien à l'intérieur d'INIS, parce que j'appelais ça, moi, un mauvais mot du recyclage. C'est pas très beau comme mot, mais disons que les gens qui sont arrivés, enfin les personnes qui suivent les cours et qui sont arrivées au plus haut niveau de ces cours, eh ben, se réinvestissent dans l'association pour donner des cours aux débutants, souvent, et c'est une très... très bonne initiative, et c'est surtout remarquable de leur part de se dévouer à ce point, parce que c'est beaucoup de temps consacré à la préparation, aux cours eux-mêmes, aux corrections. Et Christiane, tu nous parlais de ta région d'origine, et alors le nom de famille d'origine de...
Mon nom de famille, Gasparotto.
Gasparotto. Je crois qu'il y en a, il y a plusieurs familles Gasparotto dans notre région, Nord-Isère.
Non, je ne pense pas. Nous sommes tous de la même famille.
Ah, mais vous êtes tous de la même famille.
Oui.
D'accord.
Et nous sommes Gasparotto et non pas
Gasparetto. Gasparetto, puisqu'il y a les deux, oui, effectivement. Alors, je crois que tu nous as préparé aujourd'hui une recette, disons, quasi de ta région d'origine. On te laisse la parole. Alors, de quelle recette s'agit-il?
Il s'agit d'un gâteau de fête, qui est un gâteau d'origine austro-hongroise.
Donc proche de la...
Proche de notre terre natale, en fait, mais aussi parce que Trieste est resté longtemps sous l'empire austro-hongrois.
On a gardé
beaucoup de recettes de cuisine et de... mode alimentaire très proche de l'Autriche.
Très bien.
Donc, ce gâteau s'appelle le Pressnitz. Et il remonte à 1832, où l'empereur François Ier d'Autriche, en compagnie de son épouse Caroline de Bavière, arrivèrent à Trieste en visite officielle. Et afin de distraire le couple impérial et pour faire découvrir aussi bien à leurs altesses l'habileté des Triestins, il fut organisé des concours d'artisanat d'art et de cuisine. Et en ce qui concerne le concours gastronomique, c'est l'impératrice Caroline qui, faisant partie des membres du jury, fut séduite par un gâteau roulé présenté en cercle. Et ce gâteau avait le parfum des raisins et des fruits confits très prisés dans la cuisine austro-hongroise. Donc, et devant l'habileté des pâtissiers, ce gâteau a remporté le premier prix. Et il fut appelé tout de suite d'un nom autrichien, Pressprinzessin. Je ne saurais pas dire mieux. Et donc les Triestins, ne comprenant pas le nom ni le sens de ce nom, effectivement,
ils l'ont transformé
en Pressnitz, et ce nom est resté. Et le gâteau est devenu un gâteau traditionnel des grandes fêtes italiennes de fin d'année et Pâques.
D'accord. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à le découvrir, alors, ce gâteau.
Bien, alors écoutez,
peut-être le déguster un de ces jours.
Peut-être.
Ah oui, il faut.
Tu es d'accord, Laurent? Donc, Laurent est d'accord. Alors, si Laurent est d'accord.
Pour les ingrédients, il vous faut 250 g de farine, 150 g de sucre, 3 œufs, un demi-verre de rhum, un demi-verre d'eau et du sel. Ensuite, il faut préparer une pâte à base de sucre vanillé, 60 g, 60 g de raisin sec, 60 g de noix, 60 g de noisettes, 50 g de fruits confits mélangés orange, cédra, 30 g de pignons de pin et 35 g de beurre. Donc au préalable, il faut faire tremper les raisins secs dans un peu de rhum, couper les noix et les noisettes en petits morceaux et amalgamer le tout avec du beurre ramolli. 35 g de beurre, et à la fin de cela, on rajoutera les raisins égouttés. Pour préparer la pâte, donc, il faut mélanger la farine, le beurre, l'eau, le sucre et les œufs un à la fois de préférence, faire une boule de pâte et la laisser reposer une heure au frais. Ensuite, il faut bien entendu étaler la pâte très finement, répandre tout l'amalgame des fruits, refermer la pâte en la roulant sur elle-même. Badigeonner ce gros boudin avec un jaune d'œuf. Disposer sur une plaque beurrée farinée, allant au four évidemment. Préchauffer le four à 180 degrés pendant 15 minutes environ. Enfourner et laisser cuire une heure.
Petite question subsidiaire,
oui.
Qu'est-ce qu'on boit avec ce
qu'est-ce
gâteau?
Qu'on boit avec? Alors avec, on peut boire... Il est suggéré la grappa di prugne.
Oula.
Mais
carrément.
Eau de vie de prune, donc.
Con colli orientali del Friuli, verduzzo di Ramondolo e verduzzo spumante.
Oui, alors c'est oui, ce sont le verduzzo, on le trouve ici en France, le verduzzo spumante est donc pétillant.
Moi, je dirais qu'avec un bon prosecco,
un bon prosecco qu'on trouve. Alors après, il faut bien choisir, oui. Mais il y a une bonne épicerie à Bourgoin, oui. Saveur d'Italie. On va leur faire un peu de pub parce qu'ils le méritent. Où on peut trouver un bon vin pour accompagner ce gâteau. Et donc on le mange. Tu le disais, période de fête et période de Pâques.
Période de fête, oui.
Et à la fin des repas, j'imagine.
Alors un petit peu loin du repas parce que c'est un peu bourratif.
Donc on attend
un petit peu.
Entre le repas de midi et le repas du soir, pour le petit encart de 4 heures peut-être.
Par exemple, parce que c'est assez bourratif étant donné les fruits secs. Oui, surtout les fruits secs, les noix, les noisettes, tout ça, c'est assez bourratif quand même.
Alors cette recette, je rappelle, vous la retrouverez aussi sur le site d'Inis. Et donc merci Christiane, ce n'est qu'un début de Christiane, un bon début,
on confirme, c'est Dominique, vraiment un début, un très bon début, excellent.
Bon début. Et je pense que pour honorer ce début, ce sera encore peut-être mieux qu'on ait l'honneur de déguster le gâteau.
Alors écoutez, j'essaierai n'est-ce pas de vous cuisiner cela.
Voilà, alors on va finir cette première émission de l'année. Alors à la demande de Dominique, on va passer, l'Italie c'est très étendu, c'est pas large, mais c'est très étendu du nord au sud, et on va passer de Trieste à la Sardaigne. Parce qu'en décembre, nous étions allés voir, nous le disions tout à l'heure, un concert de musique traditionnelle où Dominique et Christiane étaient présentes.
Oui.
Et Dominique, il n'est pas le seul, a beaucoup aimé un joueur de Laonedas, qui est le maître de cet instrument sarde qui est réputé comme étant le plus vieil instrument de la Méditerranée. C'est une sorte de clarinette à trois tuyaux, mais clarinette, en fait, ce sont des roseaux hein, qui ont été construits, dont les trous correspondent aux différentes notes, qu'on broche quelquefois avec de la cire pour, suivant les notes recherchées. Donc, trois tuyaux qui peuvent être un faire le bourdon, les autres la mélodie, ils peuvent être encastrés l'un à l'autre. Oui. Enfin, il y a toutes les techniques possibles. Oui. Là, on a vu le maître de la clarinette, Luigi Lai, qui a 80 ans, qui avait habité un moment en Suisse, qui joue aussi du saxophone, qui fait des tas de choses et qui est un grand bonhomme. Alors on va l'entendre là avec un coro a tenores, qui est un des chants de la tradition sarde, le coro a tenores de Neonelli, qui, si je ne me trompe pas, viendra en 2013 d'ailleurs à Lyon, et qui est évidemment un chœur très attaché à la tradition. Il y a beaucoup d'improvisation, mais aussi des textes à caractère social, par exemple. Et donc les deux, comme souvent, parce que les Laonedas peuvent être accompagnés d'accordéons diatoniques, peuvent accompagner le chant. Au début, ils accompagnaient des danses, ils continuent à accompagner des danses. On va écouter une berceuse, en ce début d'année, une berceuse où un père souhaite à son enfant paix, bonheur et bien-être. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde pour cette année 2013. Donc, Aninia par le coro Neonelli, accompagné par Luigi Lai aux Laonedas. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Dormire in pace, pippiù meu, pace fortuna denza de Deu. Pague fortuna sa prenda mia, bene salute denza se via. Chi non conosca zitte sta fanno, né a minore né a manno. Stenza zagoso, sia onesto e virtuoso. Con gente ona va ed amigo, de sas intragna sia inimigo. Sa natura in ogni luogo rispetta sempre non ponda sfogo.
Annenea, 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 oh, oh.
Belle struidu ghisi a scuro e un traballo denza seguro. Sempre da meraviglia.
Annenea, 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 oh.
E l'esamore denza sconsolo e mai va se un'ora e dolo. dormi luce se vi più meu, paghe fortuna denza de Deu.